Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Gilbert lui dit, rendre heureux les gens, ce n'est pas que penser à leur propreté. Elle lui dit, tu me reproches que je me fatigue parce que je veux te faire vivre dans le propre. Il lui dit, si tu t'inquiétais moins de la propreté et plus de ce que nous sommes, rendre heureux les gens, ce n'est pas que les faire vivre dans une maison propre et bien rangée, c'est leur apporter de l'aide et amour. Comment oses-tu dire que je ne t'apporte pas de l'amour et que je ne m'inquiète pas de toi? C'est toi qui es un égoïste. Comment? En n'étant jamais ici, tu ne fais que de venir dans cette maison, tu te mets à table, prends ton argent de poche et dormir. J'ai mes cours, elle ose les épaules et lui dit, oh oui, tes cours. Ils ont bon dos, tes cours. Et puis, pourquoi n'étudies-tu pas ici, au lieu d'aller chez ce Julien? Il lui dit, que tu l'aimais bien. Elle lui dit, là n'est pas la question. Tu pourrais étudier ici et être plus souvent chez nous. Je travaille chez lui par facilité et parce qu'il a un ordinateur branché sur Internet. Elle lui dit, tu pourrais toi aussi en avoir un. Tu n'as qu'à le demander à ton père. Il pourra en avoir un de luxe, du dernier cri, avec ADN. Alors, je te remercie, mais être enfermé constamment ici, et lorsque tu restes enfermé dans la chambre de Julien pour étudier, c'est la même chose, non? Non, parce que je ne suis pas seul. Mais tu n'es pas seul, il y a toujours quelqu'un. Tu ne seras pas seul, il y a toujours quelqu'un à la maison, dont moi. Il lui dit, c'est pas la même chose. Elle lui dit, oh oui, ta mère ce n'est rien, ce n'est pas une personne, c'est seulement ta mère. Je ne dis pas ça, elle lui dit. Oh, je sais, et cette Nathalie que tu vois tous les soirs, tu sors tous les soirs avec elle. Non, qu'une fois par semaine. Elle ouvre ses épaules et lui dit, eh bien, on ne sait même pas qui elle est. Et je trouve qu'elle te dévergonde beaucoup. Et depuis que tu la vois, tu changes. Elle a une mauvaise influence sur toi. Sûrement pas, mère. En tout cas, elle ne te force pas à être propre. Si je fais attention à ma toilette, elle lui dit, tu ferais mieux c'est de faire attention à tes sous-vêtements, qui sont dégoûtants. La lingerie se plaint de ton linge. Et tout rouge, il lui dit, je changerai deux fois par semaine de linge. Vous avez autre chose à me dire, mère? Elle lui dit, « Si, sors-moi souvent. Et puis, laisse tomber cette fille et termine tes études rapidement. Ton père a besoin de toi. » Il lui dit, « Sûrement pas. Et pourquoi ?»« Parce que Nathalie est une fille charmante. » »« Je ne sais pas. Je ne veux pas le savoir parce que je ne la connais pas, ni sa famille d'ailleurs. D'où vient-elle ? D'où viennent ces gens ?» Il lui dit, « Comme nous, la cuisse de Jupiter. » Elle lui dit, « Nous sommes une famille respectable. » Elle aussi, il se lève et lui dit, « Je monte à ma chambre. » Elle lui dit, « Ta maman te dit, c'est de descendre dans une heure pour le repas, et propre, bien mère. » Et il sort de la pièce. Monte à sa chambre. Une fois dans sa chambre, il se dit que sa mère est jalouse parce qu'elle n'a pas la première place dans sa vie. Il se déshabille. Puis, va dans un salle de bain pour prendre sa douche. Et il sort de la salle de bain. Retourne dans sa chambre. Pour s'habiller de vêtements neufs. Comme il lui reste encore du temps, avant de descendre pour dîner, il va se mettre une cassette pour l'écouter allongé sur son lit. Et il s'allonge sur son lit. Demi-heure plus tard, il sort de sa chambre. aller à la salle à manger. Où il retrouve sa mère qui est déjà à table. Il s'assoit en face d'elle. Mère, j'ai compris. Vous êtes triste parce que, pour la plupart du temps, vous êtes seule dans cette grande maison. Mais vous devriez un peu sortir, ça vous désennuierait. Le serveur leur sert le potage. Elle lui dit, si tu crois que j'ai le temps de m'ennuyer avec cette grande maison que j'ai à m'occuper. Mais vous avez les domestiques pour ça. Elle hausse les épaules et lui dit, tu parles comme ton père. Les domestiques, sans ordre, seuls, ne font rien. C'est moi qui dirige tout ça. Donne-leur des ordres plus précis et pour la semaine, comme cela tu es plus libre. Si tu crois qu'ils obéiraient si je n'étais pas là, eh bien, si la maison est trop lourde pour toi, déménage. Tu es fou. Ton père, avec la situation qu'il a, ne peut pas se permettre d'avoir un train de vie plus modeste. Ce n'est même pas assez. J'ai lu que les Pontois vivaient dans un luxe incroyable. Et que Galien Diap, c'était pire. Gilbert lui dit, ils étaient plus riches et avaient... Ils vivaient dans une autre époque. Rends-toi compte que ces deux sociétés ont créé le sixième continent. Elle lui dit, mais ton père rebâtit le monde, lui. Il lui dit, en Paris, pour le moment. Mais pense tout de même à toi. Je te remercie, mais je dois penser à ton père et à toi aussi. L'endemain, Gilbert retrouve, comme d'habitude, à la sortie de ses cours, Nathalie. Bonjour, il s'embrasse. Nathalie lui dit, on va boire quelque chose? Oui, allons-y. Et ils vont comme d'habitude au café qui est en face de l'université. Ils y rentrent. Et se trouve une table, commande du jus de fruits. Nathalie, un jus d'ananas. Gilbert, un jus d'orange. Gilbert demande, tu as revu Françoise? Elle lui dit, le moins souvent, je me méfie un peu. Le serveur vient leur apporter les boissons. Gilbert les paie avec sa carte. Une fois que le serveur est parti, il lui dit, il serait peut-être bien que tu viennes à la maison pour faire connaissance avec ma mère. Elle lui dit, non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas fiancés, cela ne se fait pas. Mais je suis bien allé chez ta mère. C'est elle qui l'a absolument voulu, mais ce n'est pas bien. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu es collé monté, français moyen? Elle lui dit, peut-être oui, mais... Si on se marie, c'est fini les diplômes. J'aurai plus que des emplois précaires si j'en trouve. Et si je vais chez ta mère, elle pensera qu'on va se marier tout de suite, peut-être nous forcer à nous marier. Alors tu vois la chose. Il lui dit, mais il y a des tas de jeunes qui se marient tout en étant étudiants. Elle lui dit, oui, mais dans quelles conditions? Bien, n'en parlons plus. Les jours passent. Lionel se dirige vers un vieil immeuble d'une rue sombre, étroite. Il fait nuit. L'immeuble est sans âge. Il entre dans l'immeuble. Il monte jusqu'au troisième étage par les escaliers de pierre usés. Sonne à la porte de gauche. La porte est ouverte. C'est une vieille femme, toute maigre, cheveux blancs en chignon, robe noire.
Bonjour, monsieur.
Bonjour. Il entre. Elle ferme la porte derrière lui.
Il vous attend à son bureau.
Couloir sombre, il la suit.
Entrez.
Elle le fait entrer. Il a refermé la porte derrière lui. Pièce meublée en bureau, c'est sombre. Les meubles sont sans âge. Il y avait un vieux tapis à terre, une bibliothèque à droite bourrée à craquer de livres, des portes vitrées ne pouvant pas se fermer. Un vieux fauteuil en cuir marron devant le bureau, assis à son bureau, un gros homme chauve habillé d'un costume noir. Il a à ses mains de grosses bagues. Le bureau a des piles de pochettes en vieux carton usé d'or, d'où sort des papiers. L'homme lève enfin la tête et dit à Lionel, « Venez vous asseoir. » Lionel va s'asseoir. Va s'asseoir dans le fauteuil et en s'assoyant, il s'aperçoit qu'il est défoncé. L'homme lui dit,
« Votre opération s'est achevée par un échec. Vous deviez éliminer mademoiselle... Prends,
sur sa pile une pochette, la tourne.
Oui, mademoiselle Land, vous ne l'avez pas faite. Pourquoi ?
Les circonstances, je croyais aussi avoir l'occasion, c'est de m'occuper de l'autre, Nathalie Poncet, l'homme lui dit.
Qui vous a dit de vous occuper de Nathalie Poncet ?
J'ai cru comprendre qu'elle aussi vous gênait.
Vous avez mal compris. Et pour ce qui est de l'autre, il fallait éliminer. Comment allons-nous faire maintenant ? Vous êtes repéré. Vous ne valez plus rien.
Je vous en supplie. Je peux encore.
C'est trop tard. Vous avez fait une faute grave. Françoise est très dangereuse. Elle peut tout détruire. Elle détient une arme contre nous.
Lionel lui dit. Je peux essayer de...
Non, il est trop tard pour vous. Nous allons nous en occuper autrement. De toute façon, il faut l'éliminer. Vous savez qu'elle a fait un voyage à Lyon.
Oui.
Ah, nous allons nous occuper, mais sans vous.
Lionel lui dit. Qu'est-ce que je fais ?
Nous avions besoin de vous, juste pour cette opération.
Je peux vous être utile autrement ?
J'y ai pensé.
Il appuie sur la sonnette du bureau.
Nous allons nous occuper de vous.
La porte s'ouvre. C'est la vieille dame. L'homme lui demande.
La voiture est là ?
Oui, monsieur.
Bien.
L'homme se lève et dit à Lionel.
On va vous mener en voiture. Vous verriez. Vous allez voir que l'on pense à vous. Venez.
Lionel se lève et suit l'homme. Ils sortent de l'appartement. Et descendent l'allée pour sortir de l'immeuble. Où se trouve une grosse voiture noire. Il y a un chauffeur. L'homme ouvre la portière arrière de la voiture et dit à Lionel,
« Entrez, je vous en prie. »
Lionel s'engouffre dans la voiture. Sur le siège arrière se trouve un homme habillé de noir. La portière se referme.
La voiture a démarré. Lionel dit « Bonsoir, monsieur. »
L'homme lui dit « Bonsoir. »
Vous m'emmenez où ?
Très loin.
Le voyage sera long ?
Oui. Pour vous.
Lionel voit les rues de Paris défiler. Puis, c'est le périphérique. L'homme à côté de lui reste de marbre. Puis, la voiture sort de l'autoroute. Roule dans la campagne. La voiture s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée d'un coup, en plein champ. L'homme à côté de lui lui dit
« Sortez, s'il vous plaît. »
Lionel sort de voiture. L'homme lui dit
« Marchez dans le champ, là, tout droit. »
Lionel marche dans le champ. Tout droit. Marche dans le soin, tout droit. C'est la pleine lune. On y voit presque comme en plein jour. Lionel marche en se demandant ce qu'il va trouver. Dans son dos est tombé la tête la première et ne se relève pas. La balle, une balle lui a touché la nuque, un trou noir. Il a la tête dans l'herbe, les jambes et les bras écartés. L'homme court avec son arme à longue vue. Il se penche sur Lionel. Il a tiré encore des balles dans le corps, aux omoplates, donné un coup de pied, retourné le cadavre pour voir s'il est bien mort. Puis s'en retourne. Arrivé vers la voiture, il entre dans la voiture. De l'autre côté du champ, il y a une ambulance qui attendait depuis le début pour aller chercher le corps. Deux infirmiers sortent le brancard et vont prendre le cadavre encore chaud. Ils le mettent sur le brancard et vont le mener à l'ambulance. L'ambulance file. Un ambulancier qui conduit dit à l'autre: il n'y a pas de coordination entre les services. Pourquoi nous le donner mort comme ça? C'est con. Ils ont charcuté le corps et le cerveau est en bouillie. Ils ont massacré la marchandise. S'ils nous l'avaient donné vivant, on aurait eu le corps et le cerveau intact. On l'aurait dépecé. Au laboratoire, proprement. Un si beau jeune homme. Quel gâchis. Que va-t-on en faire maintenant? Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre,
la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.